Exposition biblique, chapitre 6. Vivez comme ceux qui ressemblent à Christ. Le corps racheté à un grand prix, celui qui s'attache au Seigneur. Êtes-vous une personne qui vit actuellement au sein de la communauté de foi? Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 3. Une personne qui suit spirituellement la parole de Dieu en vient naturellement à vivre une vie en essayant de rendre sa conduite droite. Il ne s'agit pas simplement d'embellir un comportement extérieur, mais c'est un changement qui vient d'une vie de foi qui considère la parole de Dieu comme la norme de la foi et qui, en même temps, essaie d'établir sa propre foi avec droiture. La Bible dit qu'une vie qui suit la parole de Dieu change le comportement et l'attitude d'une personne envers la vie. Psaume chapitre 119, verset 9, dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» En se dirigeant d'après ta parole. Cette parole signifie que lorsque la parole de Dieu est prise comme norme d'une vie de foi, la conduite de cette personne devient droite. De plus, Jacques chapitre 1, verset 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Une personne qui suit la parole de Dieu ne vit pas une vie qui se contente d'entendre la parole et de rester dans la connaissance, mais c'est quelqu'un qui essaie de mettre la parole de Dieu en pratique. Par conséquent, par ses paroles et ses actions, son attitude envers les gens et la direction de sa vie, il essaie progressivement de vivre en alignement avec la norme de la parole de Dieu. Le discernement naît chez une personne qui suit spirituellement la parole de Dieu par la foi. Par la parole, il en vient à juger ce qui est juste devant Dieu et ce qui est mal. Un tel discernement guide une personne vers une vie plus prudente et plus droite. Par conséquent, il fait toujours un retour sur lui-même pour voir si ses actions sont convenables devant Dieu. De plus, une personne qui vit en suivant la parole de Dieu en vient à avoir une attitude humble. Il ne prend pas ses propres pensées ou désirs comme une norme absolue, mais il fait un retour sur lui-même en se basant sur la norme de la parole de Dieu. Cette attitude conduit une personne de foi à une vie de foi plus prudente et plus droite. Bien sûr, même si l'on est une personne qui suit la parole de Dieu, il n'y a pas de personne juste qui ne commette pas d'erreur. Parce que les êtres humains ont encore des faiblesses, ils peuvent parfois faire des erreurs ou montrer des lacunes. Cependant, la différence importante est la direction de cette vie. Ceux qui suivent la parole de Dieu par la foi essaient de revenir à la vie de foi que Dieu veut lorsqu'ils réalisent que leur vie est mauvaise. En fin de compte, une personne qui suit la parole de Dieu avec la foi, qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, essaie d'aligner sa vie sur la norme de la parole, de sorte qu'elle en vient à vivre une vie où ses actions et son attitude de foi changent progressivement avec droiture. La raison pour laquelle sa conduite devient droite, c'est qu'il essaie de vivre par la foi en croyant en la parole de Dieu. Pourquoi ceux qui s'unissent à l'injustice n'héritent-ils pas le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Épître aux Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. La Bible dit clairement qu'une personne qui s'unit à l'injustice et continue à suivre cette vie ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Cela ne signifie pas simplement une erreur ou une faiblesse ponctuelle, mais cela indique un état où l'on fixe l'injustice comme but de la vie et où l'on vit continuellement en suivant le péché. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Et il mentionne diverses formes de péchés telles que l'impudicité, l'idolâtrie, l'adultère, la cupidité, l'ivrognerie, les outrages et l'extorsion. Paul déclare clairement qu'une telle vie est une vie qui est incompatible avec le royaume de Dieu. Le point important ici est l'expression « s'unit à l'injustice ». Il ne s'agit pas de savoir si une personne a commis un péché une fois, mais cela signifie un état où l'on accepte l'injustice comme son mode de vie et où l'on vit avec elle. Parce que la vie du royaume de Dieu est une vie qui se dirige vers la justice et la sainteté de Dieu, une vie continuellement combinée à l'injustice ne convient pas à une personne qui vit par la foi en croyant en la parole de l'évangile, de l'eau et de l'esprit. De plus, dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, tout en expliquant les œuvres de la chair, Paul avertit que ceux qui continuent à suivre une telle vie n'hériteront pas le royaume de Dieu. Cela montre que le royaume de Dieu n'est pas une simple affiliation religieuse, mais qu'il est profondément lié à la direction de la vie et à l'état de l'esprit. Cependant, la Bible ajoute simultanément un fait important. Dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11, Paul dit « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Cette parole montre le fait que même une personne qui vivait auparavant dans le péché peut être changée par la grâce de Dieu. Par conséquent, l'enseignement de la Bible n'est pas une simple condamnation, mais a la signification suivante. La vie du royaume de Dieu n'est pas une vie avec l'injustice, mais une vie vécue selon la justice de Dieu. Si une personne choisit continuellement une vie unie à l'injustice, elle marche sur un chemin opposé à la direction du royaume de Dieu. Cependant, Dieu veut toujours qu'une personne se détourne de ce chemin et revienne sur le chemin de la justice et de la vérité. En fin de compte, la vie qui hérite le royaume de Dieu n'est pas une vie suivant l'injustice, mais une vie vécue pour la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui plaît à Dieu, ce qui est une vie qui continue d'être nouvellement transformée dans la parole de Dieu. Paul trace une ligne sans compromis. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Il dresse un catalogue spécifique de péchés, ce qui n'est pas pour menacer les saints, mais pour leur rappeler quel genre d'être ils étaient dans le passé. Et un renversement décisif s'ensuit. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ce passage est la partie où l'évangile de l'eau et de l'Esprit brille le plus clairement. Le fait d'être lavé fait référence à l'événement où les péchés du monde ont été transférés sur le corps de Jésus par son baptême. La sanctification fait référence au fait d'être mis à part comme la possession de Dieu, la justification est le résultat du jugement du péché s'achevant sur la croix, et par l'Esprit de notre Dieu est la preuve de Dieu confirmant ce salut. La transformation d'un saint n'est pas une amélioration morale progressive, mais un transfert de l'identité de salut qui s'est déjà produit. Le corps de celui qui a reçu l'effacement des péchés doit-il exister pour le Seigneur ? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 14. Selon l'enseignement de la Bible, le corps d'une personne qui a reçu l'effacement des péchés doit être utilisé pour une vie qui existe pour le Seigneur. Cela signifie que le corps d'une personne n'est pas simplement un outil pour satisfaire des désirs personnels, mais qu'il est donné pour une vie qui accomplit la volonté de Dieu. L'apôtre Paul explique clairement ce fait dans le chapitre 6 de 1 Épître aux Corinthiens. Il dit « Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 13. Cette parole montre qu'un croyant n'est pas un être qui utilise son propre corps comme il lui plaît, mais un être lié au Seigneur. Dieu ne sauve pas seulement l'âme d'une personne, mais il considère que la vie entière de la personne appartient à Dieu. De plus, Paul continue et dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Cette parole signifie que le corps d'un croyant n'est pas une simple chair physique, mais un être semblable à un temple où l'Esprit de Dieu demeure. Par conséquent, un croyant ne doit pas utiliser son corps sans aucun but, mais doit l'utiliser pour une vie qui rend gloire à Dieu. Dans Romains, chapitre 12, verset 1 également, Paul exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui est dit ici ne signifie pas un simple rituel religieux, mais une attitude consistant à offrir sa vie entière à Dieu. Cela signifie vivre en ayant conscience que nos corps, notre temps, nos actions et la direction de notre vie appartiennent à Dieu. Par conséquent, la direction de vie qui apparaît chez une personne qui a reçu l'extinction des péchés est claire. Il n'essaie plus d'utiliser son corps comme un instrument de péché, mais en vient à avoir à cœur de l'utiliser pour une vie qui accomplit la volonté de Dieu. Cela n'est pas forcé contre sa volonté, mais c'est une attitude de gratitude et de dévouement qui apparaît naturellement chez une personne qui prend conscience de la grâce accordée par Dieu. En fin de compte, l'enseignement de la Bible est le suivant. Le corps d'une personne qui a reçu l'effacement des péchés, en croyant en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, n'est plus seulement pour elle-même, mais c'est un instrument de vie appartenant à Dieu. Ainsi, un croyant essaie de vivre en rendant gloire à Dieu à travers sa vie et son corps. C'est la nouvelle direction de vie qui apparaît chez une personne qui a reçu l'effacement des péchés. Les membres de l'église de Corinthe avaient l'habitude de dire « Tout m'est permis ». Paul ne nie pas entièrement cette parole, mais établit immédiatement une norme de contrôle. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » L'évangile de l'eau et de l'esprit ne ramène pas les saints dans l'esclavage de la loi, mais il ne les laisse pas non plus confondre la licence avec la liberté. Paul déclare résolument « Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. » La raison est claire. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Le corps d'un saint n'est ni un instrument de péché ni une possession personnelle. Espérant la résurrection, il appartient au Seigneur. Parce que c'est un corps déjà sauvé du péché, il ne peut pas être utilisé comme s'il appartenait encore au péché. Devons-nous vivre comme appartenant à Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 15 à 17. La Bible enseigne clairement qu'un croyant doit vivre comme appartenant à Christ. Ce n'est pas une simple expression religieuse, mais cela signifie le fait que l'appartenance et la direction de vie d'une personne qui a reçu le salut appartiennent à Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 14, verset 8 « Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Cette parole montre le fait que la vie d'un croyant n'est plus une vie seulement pour lui-même, mais une vie appartenant au Seigneur. Cela signifie que pour une personne qui a reçu le salut, le centre de sa vie est devenu Jésus-Christ et non elle-même. De plus, dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, Paul dit que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ici, l'expression « racheté à un grand prix » explique que les croyants en sont venus à appartenir à Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Par conséquent, cela signifie qu'un saint n'est pas un être qui utilise sa vie comme il lui plaît, mais qu'il doit vivre comme une personne appartenant à Dieu. Dans Galates chapitre 2, verset 20 également, Paul exprime sa vie ainsi. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Cette parole montre le fait que la vie d'une personne de foi est passée d'une vie centrée sur elle-même à une vie centrée sur Christ. Un croyant vit toujours dans ce monde, mais le but et le centre de cette vie deviennent une vie dirigée vers Christ. Vivre comme appartenant à Christ inclut plusieurs significations. Premièrement, le centre de la vie n'est pas soi-même, mais la prédication de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Deuxièmement, c'est essayer de vivre sa vie dans la volonté de Dieu pour la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Troisièmement, c'est une vie qui transmet la direction de vie consistant à essayer de vivre selon l'Évangile et les enseignements de Jésus-Christ. Cependant, une telle vie de foi n'est pas une vie vécue en étant forcée contre sa volonté, mais un phénomène qui apparaît naturellement dans le cœur à partir du jour où l'on prend conscience de la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de Dieu. Une personne qui prend profondément conscience de la grâce du salut accordé par Dieu en vient à accepter avec joie le fait que sa vie appartient à Dieu. En fin de compte, le cœur de la foi dont parle la Bible est le suivant. Un croyant n'est plus un être qui vit seulement pour lui-même, mais c'est quelqu'un qui doit vivre une vie pour la prédication de son évangile en tant que personne appartenant à Jésus-Christ. C'est la vie consistant à vivre comme appartenant à Christ dont parle la Bible. Paul pose une question d'un poids immense. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? La gravité de cette question ne saurait être trop soulignée. Un saint qui a été sauvé du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit est un être dont le corps physique lui-même est uni à Christ, et non pas seulement l'âme appartenant à Christ. Paul rend cela clair, celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle, mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul corps avec Christ. Doit-on offrir son corps comme appartenant à Christ? Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Première épître aux Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. La Bible dit qu'un croyant doit offrir son corps comme appartenant à Christ. Cela ne signifie pas simplement un rituel religieux ou un dévouement extérieur, mais fait référence à une attitude de foi qui reconnaît que sa vie entière appartient à Dieu. L'apôtre Paul exhorte ainsi dans Romains chapitre 12, verset 1 « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce dont il est question ici, c'est d'offrir la vie même d'une personne à Dieu, contrairement aux anciens sacrifices consistant à présenter des offrandes. Un croyant est appelé à servir Dieu et à rendre gloire à Dieu à travers son corps et sa vie. De plus, 1 Épître aux Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Cette parole montre que le corps d'un croyant n'est pas simplement une possession personnelle, mais un instrument de vie appartenant à Dieu. Offrir son corps comme appartenant à Christ inclut plusieurs significations. Premièrement, c'est reconnaître le fait que le maître de sa vie n'est pas soi-même, mais qu'il appartient à Christ. Deuxièmement, c'est avoir à cœur d'utiliser son corps pour l'œuvre de la prédication de l'Évangile de Dieu, plutôt que de l'utiliser comme un instrument de péché et de désir charnel. Troisièmement, c'est vivre une vie qui rend gloire à Dieu par les paroles, les actions et la direction de la vie. Un tel dévouement de foi ne se fait pas par la force, mais c'est une foi qui apparaît chez une personne qui a pris conscience de la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de Dieu. Une personne qui prend profondément conscience de la parole de l'Évangile du salut accordé par Dieu vit joyeusement par le seul fait que sa vie appartient à Dieu. En fin de compte, la vie de foi dont parle la Bible ne consiste pas simplement à croire en Dieu uniquement avec le cœur, mais c'est une vie consistant à offrir son corps et sa vie entière à Dieu. Un croyant est quelqu'un qui est appelé à servir Dieu en offrant son corps comme appartenant à Christ et à vivre une vie qui révèle la gloire de Dieu à travers cette vie. Paul conclut « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Un saint n'est pas quelqu'un qui part à la recherche de Dieu, mais un temple où Dieu lui-même demeure, parce qu'ils ont été rachetés à un grand prix. Ce prix a été payé parce qu'ils ont obtenu le salut en croyant au Seigneur, que les péchés du monde ont été transférés par le baptême que Jésus a reçu de Jean, qui a subi le jugement du péché sur la croix et qui est ressuscité d'entre les morts. » Paul termine par une exhortation de foi. « Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ce n'est pas une condition pour obtenir le salut, mais la direction d'une vie de foi donnée à ceux qui sont déjà sauvés. » Première épître aux Corinthiens 6 nous demande aujourd'hui « Vivez-vous toujours en considérant votre corps comme le vôtre, ou vivez-vous comme le corps du Seigneur qui a été racheté en payant le prix du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit ?»